C'est une loi qui ne passerait pas, quoi. On ne peut pas. La conscience de chacun d'entre nous, et nous ne pouvons pas la connaître. Hein. Moi, je connais à peu près ma conscience. Je dis à peu près. Vous, vous connaissez à peu près la vôtre. Quand on se parle, il y a une interconscience qui se fait. Il y a un petit cocktail de conscience qui se fait, n'est-ce pas? Alors qu'il arrive à ce moment-là à peu près à s'entendre. Et c'est vrai, c'est comme ça qu'on peut dialoguer avec quelqu'un et qu'on peut arriver à progresser, recevoir de l'un par rapport à l'autre. Mais la dignité de l'homme, ce n'est pas la conscience. La dignité de l'homme, c'est sa capacité d'aimer. C'est son âme spirituelle. C'est sa capacité d'aimer. Or, la capacité d'aimer de chacun, vous ne pouvez pas la mesurer. C'est au-delà de la mesure. Or, ce qui se passe chez les handicapés, c'est justement ce fait que les handicapés ont une capacité d'aimer, très difficile à mesurer, mais une capacité d'aimer. Alors là aussi, je vous cite une petite anecdote, parce que c'est toujours très intéressant, ça fait comprendre cette chose-là. Le professeur Marois, je prends toujours lui, parce que le point de vue biologique, il m'a beaucoup appris. Le professeur Marois a invité à faire une conférence aux grosses têtes. Vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a une société en Amérique, ceux qui ont passé le test fameux et qui ont un coefficient 80, je veux dire. Alors ceux-là, ça fait partie des grosses têtes. Il y a comme ça. Et en France, ça commence à prendre. Hein. On est les grosses têtes. Bon, et le professeur Marois, donc, invité à faire cette conférence, a commencé par dire, je ne sais pas du tout pourquoi je suis invité par vous à faire cette conférence, parce que je n'ai jamais passé ce test. Alors, je ne sais pas, si je le passerai, sans doute que je n'aurai pas le même coefficient que vous. Vous êtes des grosses têtes, vous avez tous ce coefficient extraordinaire, merveilleux. Peut-être parce que quand j'étais en seconde, j'ai eu le premier prix national du thème latin. Ah, c'est peut-être à cause de ça que je suis invité par vous. Ouais. Bon, et alors, il a continué de charrier un peu comme ça, pour voir jusqu'où les grosses têtes allaient un peu d'humour. Parce qu'ordinairement, les grosses têtes n'en ont plus. Tout est plein, la grosse tête. Là, il n'y a plus d'humour. C'est très gênant. Là. Il charriait un peu. Ça lui était bien égal d'être réinvité ou pas être réinvité. Il faisait pas partie de la société. Alors, il a dit cette chose alors. Tenez, hier, j'ai été à Trolley. J'ai vu Jean Vanier et j'ai vu des handicapés. C'est curieux, ça fait deux extrêmes de l'humanité. Alors évidemment, à ce moment-là, les grossettes ont commencé à voir qu'on les mettait en comparaison avec les handicapés. Ça n'allait plus du tout. C'est les deux extrêmes de l'humanité. Il y aurait peut-être possibilité d'une complémentarité. Alors ça allait de moins en moins. Une possibilité d'une complémentarité. Vous êtes des grosses têtes au niveau de l'habileté extraordinaire de vos raisonnements. Mais peut-être que du côté affectif, c'est moins développé. Tandis que du côté des handicapés, ils n'ont aucune agilité. Quand on fait passer des tests, c'est lamentable. Mais ils ont une capacité extraordinaire d'aimer. Alors, il y a peut-être une complémentarité, vous voyez. Parce que l'homme, il m'a raconté ça, je n'ai pas assisté à la conférence, mais c'est le lendemain que je le voyais, il m'a raconté ça. Il m'a dit, c'était extraordinaire, je ne serai sûrement plus jamais invité. Je leur ai dit ce que j'avais dans mon cœur, et je pouvais le dire, parce que j'étais invité, en disant, c'est très bien d'être fort en thème, c'est très bien d'être des grosses têtes, c'est très très bien d'avoir ce coefficient. C'est un don de la nature, c'est extraordinaire, c'est super doué, c'est extraordinaire. Mais attention, c'est pas ça l'homme, c'est sa capacité d'aimer. Oui. Et au fond, c'est vrai. Il y a les deux choses, le développement de l'intelligence, l'habileté rationnelle et logique. Ça peut se mesurer. La capacité profonde de l'intelligence, ça ne se mesure pas. Mais l'habileté logique, ça se mesure. Et puis il y a la capacité d'aimer. Et ça ne se mesure pas. Il n'y a pas de test sur la capacité d'aimer. J'ai toujours posé cette colle à mes psychologues. Hein. Je dis, c'est quand même curieux qu'il n'y avait pas des tests pour avoir la capacité d'aimer. Elle a dit, mais comment on pourrait faire? Alors, j'ai dit, on pourrait, je suis sûr, inventer quelque chose. Ce serait très intéressant de voir ça. Il y a des tests uniquement au niveau de l'habileté de la construction intellectuelle. Donc c'est l'habileté logique, ou l'habileté de construction intellectuelle, l'habileté du faire, du faire. Mais il n'y a pas de test sur la capacité morale et la capacité d'aimer. C'est désastreux, ça. C'est désastreux. Je ne sais pas si on pourrait en faire. Hein. Ça, ce serait une chose très curieuse. Ah, on pourrait au moins s'approcher. Pas pouvoir. Je ne peux pas mesurer la capacité intellectuelle de quelqu'un. Impossible. Je ne peux pas mesurer la capacité d'aimer. Mais je peux m'approcher. Je peux m'approcher. Et alors là, si on prend un test, c'est toujours. Si on prend le test directement, c'est toujours catastrophique. Il faut interpréter le test. Il faut l'interpréter. C'est l'interprétation. Alors, voyez, les handicapés, leur âme est comme enfouie. Vous voyez ce que dit Platon quand il dit que le corps est comme le tombeau de l'âme. Eh bien, c'est vrai pour les handicapés. Leur corps est comme leur tombeau, mais leur âme est présente. Leur âme spirituelle est présente, mais ils ne peuvent pas la manifester. Va pas le manifester en fonction de telle ou telle blessure ou tel non-développement du cerveau. Alors, il y a eu un enfouissement. Donc, c'est du côté de la manifestation. Leur âme spirituelle ne peut pas se manifester. Mais, il y a l'âme spirituelle. Et donc, ils sont des hommes. Il y a l'âme spirituelle qui est présente. Et cette âme spirituelle pourra arriver à se découvrir progressivement par un espèce d'amour très grand qu'on aura pour eux. On pourra manifester un regard, on pourra manifester telle ou telle parole. On voit très bien, ceux qui sont habitués à vivre avec des handicapés discernent qu'il y a en eux une capacité d'aimer. Et c'est pour ça qu'au plan surnaturel, pour les handicapés, on retrouvera une possibilité de docilité affective à l'égard de l'Esprit Saint, mais qui ne pourra pas faire qu'il y ait des vertus. Ce seront des tout-petits, dans le sens évangélique. Parce qu'ils seront en docilité vis-à-vis de l'Esprit Saint, sans avoir la possibilité des vertus. Les vertus, ça c'est l'homme qui s'est développé normalement. Mais l'homme qui n'a pas pu se développer normalement, qui a eu des blessures très profondes, alors ce sera l'affectivité et la docilité au Saint-Esprit. Oui, les deux extrêmes, très curieux. Parce que le point de vue normal, oui, le point de vue de l'équilibre normal, c'est le développement de la vertu. Ce qui permet de vivre en société. Tandis que là, évidemment, c'est quelque chose qui fait que le développement de la raison n'a pas pu se faire, mais là, il y a un développement affectif de l'intelligence en profondeur.
Tout. Il y a encore une question.
Oui, dites. Tant pis, je crois qu'il vaut mieux. Vaut mieux, moi, je crois que le programme, vous voyez, la question qu'on avait faite, c'était où commence l'être humain, problème de l'avortement. On touche toutes ces questions-là. Alors, bon, dites.
À partir de la découverte de l'âme, peut-on accéder directement à l'existence de Dieu?
À partir de la découverte de l'âme. Ah, ça, alors ça, c'est une question très très vaste, celle-là. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut passer par ceci est, c'est-à-dire la métaphysique de l'être. Pourquoi? Parce que la connaissance de l'âme me laisse dans l'immanence du vivant. Vous voyez, ça a été tout gros problème de Blondel, ça, ceux qui connaissent un tout petit peu. Blondel a essayé de faire que par la connaissance de l'âme, par l'immanence, je puisse remonter jusqu'à Dieu. La vie, c'est très important comme connaissance, mais la vie me laisse dans l'immanence. Et parce que je reste dans l'immanence, je je n'arriverai jamais à découvrir la réalité première. Il faut revenir à un plus petit l'être, ce qui est. Bon, alors, je m'arrête là, et puis je vais quand même... On a encore combien de temps ?
Jusqu'à 7h30, encore 8 minutes.
8 minutes ? Ils vont pas arriver en retard. Alors, je ne sais pas. Écoutez, je vais peut-être m'arrêter maintenant. Et puis, ce soir, au début, comme vous voulez, marquez-vous bien demain, parce que c'est quand même important où commence l'être humain, le problème de l'avortement. C'est très important, surtout actuellement. Alors, j'aime bien quand même le soir, même si c'est un petit peu divisible. On m'a dit qu'hier, c'était très divisible. Vous aviez tous pataugé dans le mystère de la très sainte Trinité. C'est extraordinaire. Ils ont tous fait un plongeon dans le mystère de la très sainte Trinité. Alors, ce soir, j'ai envie de parler avec vous sur le mystère de Jésus comme le divin. Ce sera un peu plus simple pour nous. Ce sera moins sur le mystère de Jésus comme divin. C'est pour essayer de comprendre, vous voyez, les différents niveaux, c'est ça qui m'intéresse. C'est les différents niveaux, saisir comment cette petite réflexion que nous faisons au point de vue philosophique, eh bien, il y a des répercussions énormes au point de vue de notre vie chrétienne. C'est ça qui m'intéresse. Il y a des répercussions énormes. Alors, nous avons essayé forcément, on entre par un bout, par un autre. C'est difficile d'entrer dans la philosophie, c'est sûr. Mais vous voyez qu'on entre quand même, quelques petites avis qui se déterminent. Et alors, on essaiera ce soir de regarder le vivant, c'est-à-dire le Christ. Et puis demain, on regardera la question de l'avortement. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça sonne. Ah, ça sonne, c'est bien, ça vous avez raison. Vous avez raison, parce que comme ça, on est. Bon, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
de la vie avec les passions, je reprends le problème que j'avais laissé hier, ce problème très important, où commence l'être humain. Vous savez que ça a été un problème extrêmement discuté ces derniers temps, avec tout le problème de l'avortement. Même des théologiens, je ne dis pas éminents, mais des théologiens ont soutenu des positions que je crois insoutenables. Alors, c'est là qu'il faut essayer de bien comprendre au plan philosophique, parce que la plupart du temps, ces théologiens ont émis ces positions-là en fonction d'une philosophie qui était une philosophie de la conscience. Identifier l'être humain et la conscience, vous comprenez que ça peut aller très loin. Quelqu'un qui entre dans le coma n'a plus conscience, donc ce n'est plus un être humain. Supprimons-le. Oui, là, c'est très simple. Nous sommes tous d'accord que quelqu'un qui est dans le coma est encore un être humain. Bon, alors, je ne peux pas définir un être humain par le point de vue de la conscience. Au plan... Alors, je vais prendre ici, si vous voulez, une triple réflexion. Parce que je crois que c'est important d'avoir une triple réflexion sur ce problème. La réflexion du théologien croyant, la réflexion du philosophe, donc en mettant entre parenthèses le point de vue de la foi, et en essayant de réfléchir uniquement au point de vue humain. Et puis, la réflexion de l'athée. Parce que je crois qu'il faut comprendre ces trois positions, c'est-à-dire de ceux qui refuse la position de regarder le point de vue de l'être humain religieux. Alors, la position du croyant, je prends du chrétien, je pourrais prendre du musulman, je pourrais prendre aussi d'Israël, ça reviendra au même. Ceux qui croient que l'âme humaine est créée par Dieu, par le fait même, tout cela comprenne qu'il y a une alliance fondamentale de l'homme avec Dieu. Cette alliance fondamentale est dans la procréation. Dieu laisse aux hommes l'initiative de la procréation et la responsabilité de la procréation. Et Dieu répond à cette initiative humaine. C'est cette alliance première et fondamentale que nous lisons dans l'Écriture. C'est même extrêmement net. Regardez dans la Genèse, quand Ève met au monde son premier enfant, elle dit « J'ai enfanté un fils de par Dieu ». Elle ne dit pas « J'ai enfanté un fils avec Adam ». Ça, ce n'était pas la peine de la révélation. Tandis que dire « J'ai enfanté un fils de par Dieu », ça nous fait comprendre que tout de suite, selon la révélation, nous voyons que la procréation implique le concours du Dieu créateur. Et c'est bien l'alliance fondamentale de la race humaine avec Dieu. C'est là où nous comprenons que les hommes sont les benjamins de Dieu et donc les plus aimés. Il n'y a pas cette alliance avec les anges. C'est une alliance typique avec l'homme qui caractérise le point de vue du lien fondamental de la créature, homme et femme, avec Dieu. Donc, pour le croyant, celui qui croit en la Bible, pour le croyant, il y a une alliance fondamentale dans le mystère de la procréation qui fait que le mystère de la procréation n'est pas seulement d'ordre moral. Il y a quelque chose de plus, c'est d'ordre sacré. Et quand je dis d'ordre sacré, je veux dire ce qui est relié directement à Dieu. Le moral, c'est la responsabilité de l'homme par rapport à l'homme. C'est ça le point de vue moral. Le moral, c'est la responsabilité de l'homme par rapport à l'homme. Tandis que le sacré, le religieux et le sacré, c'est la relation de l'homme avec Dieu. La procréation touche un problème fondamental de l'alliance de l'homme avec Dieu, pour le croyant. Et c'est en ce sens-là que l'homme n'a pas le droit de modifier cette alliance fondamentale. Il n'a pas le droit de supprimer, si vous voulez, de séparer ce que Dieu a uni. Dieu a uni l'amour humain de l'homme et de la femme dans le point de vue de leur union conjugale, dans le point de vue de leur relation d'époux et d'épouse. Dieu a voulu que cette relation soit de fait reliée à la fécondité. Fécondité humaine appelant l'acte créateur de Dieu. Dieu répond à la fécondité humaine. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas Dieu qui a décidé le nombre d'hommes qui seraient sur l'univers. Ce sont les hommes qui ont la responsabilité de la survie de l'humanité. Et c'est une confiance inouïe de Dieu à l'égard de l'humanité. On n'y pense plus, parce qu'on c'est tellement, on croit que c'est normal. Hein. Non, ce n'est pas normal. Dieu aurait pu très bien faire autrement. Dieu aurait pu très bien faire autrement. Dieu aurait pu très bien faire que, de fait, le point de vue de la fécondité et le point de vue du nombre des hommes soient réglés par lui. Puisque certains tyrans font ça. Je dis bien, ce sont certains tyrans. Vous savez bien ce qui existe en Chine. C'est un père chinois qui m'a dit ça, un prêtre chinois qui est retourné en Chine. On accepte un enfant pas plus. Et quand la mère attend son premier enfant, on la fait toujours accoucher dans un hôpital où c'est surveillé pour faire la petite opération pour faire qu'après il n'y ait plus d'enfant. Et si jamais il y a un autre enfant, l'État ne le considère pas comme un citoyen. Et donc il est voué à mourir. Ce sont des choses qu'on ne sait pas. C'est pour ça que je vous le dis. Parce qu'on dit, oh, la Chine actuellement, ça s'est détendu. Hein, regardez bien. C'est toujours par rapport à la loi fondamentale de la famille qu'on voit si un régime politique respecte l'homme ou pas. Parce que ça, c'est fondamental. Un régime politique qui ne respecte pas la famille est contraire aux lois les plus essentielles de l'humanité. Ça, c'est très très important de comprendre ça, parce que nous allons avoir des luttes comme ça. Hein. Alors, il faut quand même comprendre les choses. Il faut les saisir dans leur point de vue très très profond. Il faut essayer d'en avoir une conviction intérieure. Voyez-moi, je vous indique cela pour que vous y réfléchissiez, que vous en ayez une conviction intérieure du cœur, hein. Une conviction profonde dans votre foi, de comprendre que la famille, c'est sacré. C'est de l'ordre du sacré, c'est pas de l'ordre uniquement politique et moral, c'est bien plus profond que cela. C'est de l'ordre religieux, fondamentalement. C'est du reste très curieux, dans toutes les traditions religieuses, la famille est toujours considérée comme quelque chose de religieux. Mais nous sommes devenus des païens, nous alors. Nous sommes devenus des païens pires hein, que les premiers qui n'avaient pas la foi. Et c'est très vrai, la corruption, ce qu'il y a de meilleur, c'est le pire. Un pays qui a été chrétien, qui a eu des mœurs chrétiennes et qui oublie ses exigences, tombe plus bas qu'un pays qui n'a jamais reçu la révélation. Ça, c'est un fait. Et on le voit tout de suite par rapport à la famille. Oui, c'est très très curieux de comprendre ces choses-là. Pour la Chine, évidemment, c'est un peu particulier, c'est sous l'influence de certaines idéologies. Les idéologies, je vous l'ai dit au début, hein, les idéologies mesurent l'homme. Eh bien, les idéologies mesurent la famille. Et les idéologies mesurent la fécondité. Donc, il faut comprendre qu'au point de vue chrétien, la procréation est liée à cette alliance avec Dieu, ce qui fait que le chrétien doit respecter ce que représentent les exigences naturelles. Je ne dis pas les lois. J'aime pas beaucoup dire les lois naturelles, parce que c'est tellement difficile à préciser. J'aime mieux dire les exigences naturelles. C'est plus profond, en respectant la finalité de ce que représente l'union conjugale, qui exprime l'amour des conjoints, mais qui, en même temps qu'exprimant l'amour des conjoints, implique une possibilité de fécondité. Et il faut toujours bien distinguer les deux. Mais c'est très important de voir aussi le lien qui existe entre les deux. On peut distinguer sans séparer. L'union de l'époux et de l'épouse. L'union d'amour et qui implique l'union des corps. Implique en premier lieu l'expression de leur amour. Et cette expression de leur amour va impliquer, selon les exigences de la nature humaine, une possibilité de fécondité. C'est pour ça qu'il est tout à fait normal d'étudier les périodes de fécondité ou de non-fécondité pour voir et pour respecter les exigences profondes de la nature. On distingue les deux, mais on ne sépare pas. Et on n'oppose pas. Celui qui voudrait séparer la fécondité de l'union conjugale de l'époux et de l'épouse, qui voudrait la séparer en disant l'homme est arrivé à dominer la nature et peut donc très bien les séparer. À ce moment-là, il fait une séparation qui est contraire à la sagesse même de Dieu qui a fait que cet amour puisse être source de fécondité. Et c'est le propre de cette alliance fondamentale à l'égard de Dieu. Oui, c'est cela que nous devons essayer de comprendre. On ne peut pas séparer l'amour de l'époux et de l'épouse dans leur union conjugale de la fécondité. On ne peut pas la séparer, mais on doit la distinguer. On doit la distinguer. Ça fait partie de la prudence dans l'ordre de l'amour. On doit les distinguer parce que, de fait, Dieu permet que l'homme connaisse les exigences de la nature, qu'il les connaisse mieux qu'avant et qu'il, par le fait même, comprenne mieux comment l'amour des conjoints qui exprime le don des corps, c'est le propre de cette amitié, l'amour des conjoints implique le don des corps, ce don des corps va impliquer la possibilité de la fécondité. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Oui, toujours, la tactique du démon, c'est de séparer ce que Dieu a uni et d'unir ce que Dieu a séparé. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un petit principe très net pour voir l'action du démon. Ce que Dieu a uni, le démon veut le séparer, et ce que Dieu a séparé, le démon veut l'unir. Très mystérieux, ça. Et ça va très loin, quand on essaie de comprendre un peu ce que ça représente. Donc, pour un chrétien, puisque la fécondité est liée à la coopération du Dieu créateur, pour un chrétien, nous ne savons pas avec précision, l'Église ne l'a pas précisé, et l'Écriture ne l'a pas précisé, à quel moment l'âme humaine est créée. Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Au Moyen-Âge, vous savez bien, saint Thomas disait « L'âme humaine est nécessairement présente au bout du sixième mois, en raison du petit tressaillement de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a tressailli dans le sein maternel au bout du sixième mois. Et donc, il était sous l'action du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que les théologiens du Moyen-Âge disaient au sixième mois, sûrement que l'âme humaine est présente. Nous, nous pouvons avoir un raisonnement un peu plus précis. D'abord au point de vue théologique, deuxièmement au point de vue proprement philosophique. Au point de vue théologique, nous proclamons que Marie est immaculée dans sa conception. Pour moi, c'est une très grande lumière. Et ça nous a été donné il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que justement, nous sommes en présence de tous ces problèmes aujourd'hui qui prennent une acuité extraordinaire. Marie est immaculée dans sa conception. Si Marie est immaculée dans sa conception, ça prouve que son âme humaine est présente dès le premier moment de sa conception. Autrement, elle ne serait pas immaculée. Le mystère de l'Immaculée Conception implique la plénitude de grâce. Et donc implique l'âme humaine en Marie. Elle n'est pas immaculée, elle n'est immaculée que dans son âme, et par son âme. Par son âme, son corps est immaculé, mais c'est par l'âme. La grâce n'est pas donnée dans le corps, la grâce est donnée dans l'âme. Et donc, il faut que l'âme spirituelle et immatérielle de Marie soit dès le premier moment de sa conception. Or, Marie est notre sœur dans l'humanité. Marie suit toutes les lois normales, au point de vue de sa nativité, au point de vue de sa conception, de l'humanité. Elle est immaculée, mais ça c'est de l'ordre d'un privilège d'amour de Dieu sur elle, mais ne modifie pas le conditionnement normal. C'est pour ça que le mystère de l'Immaculée Conception est si précieux pour nous. Il jette une très grande lumière au point de vue théologique. Et les théologiens devraient être un tout petit peu plus attentifs. Vous savez, j'ai entendu certains théologiens disant « C'est bien inutile ces derniers dogmes sur Marie. Le Saint-Père aurait pu proclamer des choses un peu plus utiles. Le mystère de l'Immaculée Conception, le mystère de l'Assomption. » Et ils oublient que c'est capital, ces deux grandes lumières. Parce que c'est la lumière sur le point de départ de l'humanité, et le terme, dans les grandes bagarres, ce qui est le plus important de comprendre, c'est le point de départ et le terme. Le point de départ pour voir d'où nous sommes, et le terme, la finalité. Et Marie nous est donnée comme l'alpha et l'oméga
de tout le gouvernement divin. L'Immaculée Conception, l'Assomption. Alors, dans la lumière de l'Immaculée Conception, nous pouvons dire avec certitude que l'âme est créée dès le premier instant de la conception. Dans la lumière du mystère de l'Immaculée Conception. Et si je ne le dis pas, je ne regarde pas le mystère de l'Immaculée Conception. Or, le mystère de l'Immaculée Conception nous est donné pour avoir une vision nouvelle de l'homme et de la femme. C'est très important. J'y reviendrai ce soir, mais je le souligne maintenant, tout de suite. Deuxièmement, donc ça, au point de vue, voyez, donc, au point de vue théologique, c'est net. Dès le premier moment de la conception, on est en présence d'un être humain qu'on doit respecter d'autant plus qu'il est totalement confié à la mère. Il est entièrement remis à la mère. Il est dans une dépendance totale. Plus un être est fragile, plus un être est petit, plus un être est pauvre, plus il faut le respecter. Alors vous voyez tout de suite la conséquence. C'est que la mère doit respecter celui qu'elle porte. Et l'avortement est donc un crime. La conséquence immédiate, c'est tuer un petit innocent qui vous est remis. Il faut voir ça. Vous voyez, il faut regarder la réalité. Évidemment, à tout péché, miséricorde, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Il faut toujours se rappeler ça. Et donc, quelqu'un qui, par faiblesse, parce que ça arrive, vous savez, on voit des choses comme ça, affolantes, hein, des gens qui c'est subitement. J'ai vu un cas affolant, qui s'est passé à Nice. D'une jeune fille qui était fiancée, qui devait se marier quelques mois après. Elle vivait seule dans son appartement. Qu'est-ce qui se passe le matin? Un homme assis sur la natte, auprès de son lit, avec une lame de rasoir dans la main. Et cet homme se précipite sur elle et la viole. Vous voyez l'affolement? Fiancée à 3 mois de son mariage. Et elle attend un enfant. Et ce type a fait ça dans plusieurs cas. Il sait, c'est une espèce de malade, c'est un fou. C'est absolument un fou. Vous voyez la situation devant laquelle ça se trouve. Et alors on est devant des choses affolantes quand on est devant ça. Alors qu'une personne comme ça, dans l'affolement, se fasse avorter, je ne lui conseillerais pas, vous voyez, c'était bien évident. Mais dans l'affolement, on perd la tête devant des situations comme ça. Alors, on n'est pas coupable en face de Dieu, c'est bien évident. Il faut bien comprendre les choses. Hein. Autant il faut être très net vis-à-vis du principe. C'est pour ça que les lois qui ont été faites sur ce problème-là, n'ont pas respecté le principe. Il faut dire les choses comme elles sont. Autant il faut être miséricordieux vis-à-vis de la personne. Du reste, d'une façon générale, c'est toujours ce qu'il faut faire. Il faut être très net au point de vue de la vérité. Il ne faut pas édulcorer la vérité. On doit être très net vis-à-vis de la vérité. Et plus on est net vis-à-vis de la vérité, plus on est miséricordieux vis-à-vis de la personne. Et c'est la même chose qu'on doit avoir par rapport aux athées. On doit dire que l'athéisme est une bêtise, il faut appeler les choses par leur nom. C'est une bêtise au point de vue humain. C'est une bêtise. Que voulez-vous dire que Dieu n'existe pas? Ça prouve qu'on n'a pas une intelligence remarquable. Ça, c'est bien évident. Le psaume le dit, hein, au point de vue chrétien. Incipiens, dixit in corde suo deus non est. Incipiens. Alors, incipiens, ça veut dire l'insensé. Le fou, celui qui a perdu un peu la tête, il dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. C'est très, on oublie cette parole, hein. Elle est quand même dite. Hein. Alors, on doit considérer que l'athéisme, c'est insensé. C'est vrai, c'est insensé. Intellectuellement, c'est insensé. Dire que Dieu n'existe pas, ça prouve qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la recherche intellectuelle. On s'est arrêté affectivement. Mais il faut avoir une miséricorde infinie vis-à-vis du pauvre type qui dit ça. De la pauvre intelligence qui dit ça. Il faut avoir une très grande miséricorde. Vous voyez ? Il faut être très net là-dessus. Je crois que c'est très très important aujourd'hui parce qu'on est en plein dans ces choses-là. Alors vous voyez, pour l'Église, pour le chrétien, pas seulement pour l'Église catholique, pour le chrétien, et pour le musulman, et pour l'israélite, c'est net. La procréation est quelque chose de sacré, et l'avortement est donc nécessairement un crime qui va directement contre cette alliance vis-à-vis de Dieu. Bon, ça, c'est au niveau chrétien. Deuxièmement, au niveau philosophique, d'une philosophie saine, celle que nous essayons d'avoir ensemble, c'est-à-dire une philosophie réaliste, une philosophie qui est en vue de l'homme, une philosophie qui respecte l'homme. Une telle philosophie peut arriver à montrer progressivement que l'âme humaine est nécessairement créée par Dieu. C'est une conclusion ultime, difficile. Très peu de philosophes le disent aujourd'hui. Mais on doit pouvoir le montrer. On doit pouvoir découvrir l'existence de Dieu. On doit pouvoir parler au niveau philosophique et métaphysique de la création. Et une fois qu'on a parlé de la création, on peut essayer de comprendre comment il y a en nous quelque chose qui dépend directement de Dieu. Donc au plan philosophique, on peut arriver à découvrir que notre âme spirituelle, immortelle, est nécessairement créée par Dieu. Même si très peu de philosophes l'ont dit, les anciens l'ont dit. Ils étaient des païens, mais de bons païens, de pieux païens. Enfin, c'était de pieux païens, parce que ces païens disaient, si on fait de la philosophie comme c'est très difficile, il faut invoquer les dieux. Alors, voyez ça, en Sorbonne aujourd'hui, au milieu d'un cours de Sorbonne de philosophie, ah, c'est très très difficile, prions quelques minutes. Les païens faisaient ça, les grecs faisaient ça, mais ceux qui sont des chrétiens et qui ne le sont plus ont peur. Je comprends très bien que c'est pas commode, hein, c'est pas commode du tout. Je ne les critique pas en disant ça, je vois un climat, on est un climat de fait. Bon, alors, il faut comprendre qu'au point de vue philosophique, nous pouvons arriver à découvrir que l'âme immortelle est créée nécessairement par Dieu. Donc, nous pouvons dire, au plan philosophique, que la procréation implique nécessairement une alliance de l'homme avec Dieu. Une alliance de l'homme avec le Créateur. On peut le dire au point de vue philosophique. Et même, on doit le dire dans la philosophie qui aboutit à la sagesse. Qui aboutit à une sagesse, c'est-à-dire une vision plénière de l'homme religieux dépendant de Dieu. Et alors, on aboutit exactement au même problème. La seule différence, alors ça c'est quand même une très grande différence, la seule différence, c'est que le philosophe ne peut pas faire appel au mystère de l'Immaculée Conception. Le mystère de l'Immaculée Conception, c'est au-delà de la sagesse philosophique. Le mystère de l'Immaculée Conception, seul le croyant peut en parler. Le philosophe ne peut pas en parler. Donc, il n'a pas cette lumière. Il n'a pas cet exemple lumineux. Cet exemplaire lumineux qui est le mystère de l'Immaculée Conception. Le philosophe ne sait pas quelle est la créature la plus parfaite. Tandis que le croyant sait que la créature la plus parfaite, c'est Marie. Pour le philosophe, la créature la plus parfaite, c'est plutôt l'homme. Vous voyez, le philosophe, il incline plutôt vers ça. Il incline plutôt vers les grands philosophes. Qu'est-ce que Platon considérait comme la créature la plus parfaite? Il ne l'a jamais dit, hein? Il n'a pas fait de confidence. Mais j'aimerais lui demander, hein? Quelle est pour vous la créature la plus parfaite? Il ne le sait pas. Aristote non plus. Hegel considère que c'est lui, ça c'est simple. Alors, c'est facile. Et on comprend. Il est arrivé au terme de l'évolution, et donc nécessairement, c'est moi. Et il le dit de façon telle qu'il est Dieu. Je suis Dieu. Donc, je suis nécessairement arrivé au terme de l'évolution. Au terme de l'évolution. C'est très curieux de voir l'humilité des grands philosophes de l'Antiquité et l'orgueil des philosophes d'aujourd'hui, vous voyez. C'est quand même très significatif, ça. Et ça, c'est les idéologies. Les idéologies conduisent à l'orgueil. Alors qu'une philosophie réaliste maintient l'humilité, le respect de l'autre. Donc, une vraie philosophie doit aboutir à considérer que nécessairement la procréation dépend, que nécessairement la procréation est en liaison avec Dieu parce que l'âme humaine est nécessairement créée par Dieu. Mais le philosophe ne peut pas savoir à quel moment l'âme humaine est créée par Dieu. Le philosophe ne peut pas l'affirmer d'une façon absolument certaine. Il peut simplement émettre un jugement de convenance. C'est important de bien être très précis là-dessus. Il ne faut pas aller trop loin. Un jugement de convenance. Je crois qu'au plan philosophique, aujourd'hui, on peut dire qu'étant donné les dernières découvertes de la biologie génétique, étant donné qu'on a découvert que dès le premier instant de la conception, le chiffre de l'homme est donné biologiquement, ceci est comme un signe, je dis bien un signe qui indique que l'âme humaine est créée dès le premier moment de la conception. Mais ce n'est qu'un signe, ce n'est pas une preuve absolue. Ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est un signe. C'est un signe qui est très important à préciser. Le philosophe, donc, ne peut pas préciser et dire de façon certaine que l'âme est créée par Dieu dès le premier moment de la conception. Le croyant peut le dire dans la lumière de l'Immaculée Conception. Le philosophe ne peut pas le dire, mais il peut dire que tout va dans ce sens. Toutes les découvertes modernes vont dans ce sens. Et donc, il y a beaucoup de raisons, c'est presque sûr, que l'âme humaine est créée dès le premier moment de la conception. De toute façon, le philosophe doit dire que la semence, donc le premier moment de la conception, cette cellule initiale, est tout entière tendue vers l'homme. Donc, virtuellement, intentionnellement, l'intention qu'on parlait d'hier, l'intentionnel, qui est une réalité, hein, c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est une réalité. Dès le premier instant de sa conception, la semence est tout entière tournée vers l'homme, donc est virtuellement un homme. Il y a une promesse d'un homme. Et par le fait même, on doit avoir le respect vis-à-vis de cette promesse comme vis-à-vis de la réalité. Parce que, de fait, profondément, c'est ordonné à l'homme. Et comme on ne peut pas savoir avec certitude que l'âme humaine n'est pas créée, on doit donc respecter ce qu'on ne connaît pas d'une manière absolue, mais dont on sait qu'il y a un ordre immédiat. De sorte que philosophiquement, je peux dire que la suppression de l'embryon est nécessairement un crime, parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de l'espèce humaine. Et j'aime de donner toujours l'argument ad hominem, qui est l'argument le plus fort pour la plupart du temps. Quand quelqu'un discute ce problème avec moi, je prends toujours cet argument ad hominem. Vous avez été dans cet état. Nous avons tous été dans cet état. Si vous avez été dans cet état, respectez ce que vous avez vécu par rapport aux autres. C'est la loi élémentaire du respect, ça. Et ça, c'est très fort. Vous voyez ? C'est très, très fort, cela. Parce que c'est le point de vue moral. C'est le fondement de toute morale. C'est le respect de l'autre. Et le respect de l'autre, c'est le respect de nous. Si nous nous respectons l'autre. Et si nous respectons l'autre, nous nous respectons. Si on détruit l'autre, on se détruit. Donc, celui qui accepte l'avortement se détruit. Lui-même, au sens le plus fort, parce qu'il ne se respecte plus dans tous les états qu'il a vécu. Et si vous ne respectez pas tous les états dans lesquels vous avez vécu, eh bien vous ne vous respectez pas vous-même. Voyez que ce dernier argument est très important, parce que quand vous avez affaire, troisième niveau, à des athées, vous n'avez qu'à prendre ce raisonnement-là. J'ai dit, la morale, c'est le respect de l'autre. Qu'il s'agisse d'une morale dite laïque ou d'une morale religieuse, le fondement est le même. La morale, c'est le respect à l'égard de l'autre. Si je n'ai pas ce respect élémentaire à l'égard de l'autre, quand l'autre est tout petit, dans un état de fragilité, de petitesse, que moi-même j'ai connu. J'ai été dans cet état-là. J'ai connu cet état-là. Donc, on m'a respecté, puisque j'existe. Si on m'a respecté, je dois respecter les autres, du même respect. Et si je ne respecte pas les autres du même respect, je me détruis. Et ça, c'est le raisonnement ad hominem qu'on peut dire par rapport, un raisonnement très très direct, par rapport à tous les hommes, qu'ils soient des croyants ou des non-croyants, qu'ils acceptent le mystère de Dieu et de la création de l'âme ou pas, peu importe.